ce matin?
Oh, oui, c'est moi.
Ah, mon petit, je ne te dis que ça.
C'est à moi, je vous dis. C'est à moi, je vous dis. Je vous dis merde. Je vous dis merde.
Bonjour à toutes et à tous. Jaune Radioactif, c'est ici et maintenant tous les quatrièmes mercredis du mois sur Radio Panique. C'est nous, Jaune Radioactif. Alors, on te souhaite beaucoup de courage pour cette fin d'année scolaire qui approche à grands pas et également bonne chance à ceux et celles qui sont en période de blocus ou alors déjà en période d'examen.
Mais alors, Ardita, c'est quoi donc Jeune Radioactif ?
Alors, Jeune Radioactif, c'est avant tout une émission participative par excellence.
Et on parle de quoi ici ?
On parle de sujets divers et variés comme l'école, le travail, le stage, la famille et bien d'autres. C'est des sujets auxquels on est confronté tous les jours, qui nous parlent et nous concernent. On va aussi parler de nos droits et de nos devoirs. Mais ne vous inquiétez pas, on est là pour les rendre ludiques et accessibles à tout le monde.
Mais je m'interroge aussi, à part nous, qui participe aux Jeunes Radioactifs ?
Alors au micro, on retrouve principalement des jeunes, des plus petits comme des plus grands, qui font appel, eux, à des invités pour les accompagner lors des émissions.
Et à qui s'adresse cette émission ?
C'est évidemment ouvert à tout public et c'est principalement ciblé pour un public de jeunes.
Et donc, à part nous, les jeunes radioactifs, qui est présent pour faire cette émission ?
Radio Panique, il est présent sur 105.4 et les associations de secteur de la jeunesse comme InforJeune Laeken. Dans tous les cas, toi qui nous écoutes, si tu veux nous aider dans notre projet, contacte-nous à InforJeune Laeken au 02 421 71 30.
Et je m'interroge aussi, comment elles se déroulent les émissions en fait ?
Alors on fait une émission par mois, on fait presque tout le temps du direct et comme j'avais dit, tous les quatrièmes mercredis du mois. De plus, on fait aussi des micro-trottoirs, des reportages, des interviews, etc.
Ok, bah, c'est bien chouette tout ça. Hein. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se met sous la dent ?
Alors, donc en fait, le mois dernier, on avait abordé la fin de l'année scolaire avec la question des examens, des délibérations, et à l'issue de celle-ci, les décisions d'orientation prises par le conseil de classe. On avait surtout parlé des nouvelles dispositions qui ont été prises pour la fin de l'année scolaire, et on t'a tout dit sur la circulaire 8052. Enfin, presque tout. C'est d'ailleurs pour ça que nous nous retrouvons aujourd'hui pour la suite de l'émission qui est consacrée à la fin de l'année scolaire. Alors pour ce faire, nous avons à nos côtés Eric Brugemann, juriste d'InforJeune Laeken, qui a gentiment accepté d'être encore une fois notre invité du jour pour la suite de notre émission. Bonjour Eric.
Bonjour Ardita, bonjour tout le monde.
Alors avant de passer à la première partie de l'émission, on va d'abord s'écouter un morceau qui s'intitule « Un jour de paix » par Black Renja.
Si la paix pouvait embrasser ce monde juste un jour, une trêve, une pause pour que l'on sache après quand on court. Sait-on encore ce que signifie l'amour? J'ai bien peur que non, Dieu nous le montre tous les jours. La planète tourne à l'envers, ça me fait peur. Voyez-vous les flammes de l'enfer, frères et sœurs. Ne lui vendez pas vos âmes.
J'aimerais dire que les clés du bonheur se trouvent pas dans les billets de banque. Voir tous ces gens libérés de la peur qui les hante. Qu'aiment la vie, mais celle-ci leur a fait un baiser mortel. Quelques rimes que tu peux comparer aux larmes du soleil. Un jour de paix, tant qu'il y aura des hommes et des femmes qui s'aiment. Ton cœur, c'est pas une télécommande, mais on veut tous une femme présente. Même dans la tourmente, chacun regagne son domicile. Comme des tranchées, ta couleur de peau peut faire de toi un étranger, tu trouves ça normal? Moi je me sens chez moi n'importe où. Citoyen du monde avec peu de moyens, mais libre au moins. Au fond de moi, j'ai du mal à comprendre. Quand je vois ces mots mal vêtus, mal nourris, victime de maltraitance, Vitry, mon cadre de vie, rongé par le trafic, de l'amour au compte-gouttes comme les aides humanitaires pour l'Afrique. Au cœur de l'incendie, il suffit pas de se lever du pompier. Traverse les flammes, courageux et brave comme un pompier.
Si la paix pouvait embrasser ce monde juste un jour, une trêve, une pause pour que l'on sache après quand on court. Sait-on encore ce que signifie l'amour? J'ai bien peur que non, Dieu nous le montre tous les jours. La planète tourne à l'envers, ça me fait peur. Voyez-vous les flammes de l'enfer, frères et sœurs. Ne lui vendez pas vos âmes.
Comment rester insensible La violence déborde, changer l'attitude de l'être humain, est-ce possible? Comment rester insensible? Une vie minable dans un quartier minable, mais pour la paix, tant que c'est possible.
En tant que Rastaman, je mène mon combat. Je veux la paix, l'amour, mais pour le diable, j'ai des coups de combat. Je lâcherai pas l'affaire, non, je ne baisserai pas les bras. J'y croirai dur comme fer, même quand mon cœur s'arrêtera. Un jour de paix pour nos fils, un jour de paix pour nos filles. Un jour sans que tout parte en vrille. Un jour sans pleurs, sans haine, sans peur, sans peine. Un jour où tombe Babylone.
Je suis un être humain comme tout le monde. Je m'arrête aux choses sensibles. Tu sais que même avec le temps, les plus rebelles, ça s'agisse. Je vois de la joie au lieu de la haine dans les yeux des gens. J'ai de la peine quand je regarde les infos et vois ce qui se passe sur d'autres continents. Je vis là où les jours se confondent avec la nuit. Là où aussi on laisse peu de chance aux plus démunis, aux orphelins qui retrouvent l'amour dans un foyer secondaire. Dès leur enfance, bercés par la colère d'un père, toutes nos valeurs sont écoulées dans les yeux. Une violence urbaine au milieu des nôtres. Rêve d'une terre sans discrimination, sans conflit. Tendre la main à ceux dans la solitude, comme ce petit paralysé sur un lit. Convoite le bonheur, ce second souffle. Y'a des gens qui souffrent et qui font pas semblant. Pour tous les pays en guerre, j'agite le drapeau blanc. Baissez les armes, séchez vos larmes. Pour un jour de paix, c'est maintenant.
Si la paix pouvait embrasser ce monde juste un jour, une trêve, une pause, pour que l'on sache après quand on court. C'est trop encore ce que signifie l'amour. J'ai bien peur que non, Dieu nous le montre tous les jours. La planète tourne à l'envers, ça me fait peur. Voyez-vous les flammes de l'enfer, frères et sœurs. Ne lui vendez pas vos âmes.
Comment rester insensible? La violence déborde, changer l'attitude de l'être humain, est-ce possible? Comment rester insensible? Une vie minable dans un quartier minable, mais pour la paix, tant que c'est possible.
Yeah, 113 Placo, 9495 Colcham Music, Ghetto Youth Progress, Yaman. Comment veux-tu que la terre tourne à l'endroit si nos cerveaux marchent à l'envers, man? Reaction, reaction!
C'était Un jour de paix par Black Reneja. Dans cette première partie d'émission, Eric va nous rappeler brièvement les points clés de l'émission précédente. On a donc parlé de l'orientation au deuxième et au troisième degré avec les attestations d'orientation et également du premier degré avec les attestations de compétences. Eric, peux-tu nous rafraîchir un peu la mémoire ?
Ben oui, puisque donc on se rapproche de plus en plus donc de la fin de l'année scolaire et que donc il y aura des délibérations à la fin juin. Les conseils de classe vont délibérer et donc dans un premier temps, bon suite à ta question immédiate, ce qu'il faut peut-être rappeler donc c'est qu'est-ce qu'une AOA, AOB, AOC. Donc AOA ça veut dire attestation d'orientation. A, ça veut dire que dans le deuxième et dans le troisième degré, donc de la troisième année à la sixième, voire à la septième si on est en professionnel, si on a une AOA, ça veut dire qu'on est admis dans l'année supérieure et qu'on a réussi sans condition. Si on a une AOB, ça veut dire c'est une réussite, mais une réussite restrictive. Qu'est-ce que ça veut dire une réussite restrictive? Ça veut dire que le conseil de classe dit « Ok, tu peux passer dans l'année supérieure, mais pas dans tout. » C'est-à-dire que, bon, exemple classique, je suis en troisième général et j'ai une restriction sur tout ce qui est transition. Donc, je ne peux pas continuer en général, je ne peux pas continuer en technique de transition, mais je peux, par exemple, continuer en technique de qualification et en professionnel. Ou en professionnel. Et donc, ce qui est important à dire, c'est que cette attestation restrictive, donc, elle me permet un passage limité. Mais, bon, si maintenant, dans l'exemple que j'ai pris, je n'ai pas envie d'aller en qualification, je n'ai pas envie d'aller en professionnel, je peux demander à redoubler sur base volontaire. Mais là, il s'agit alors d'un redoublement. Donc, on n'est pas obligé d'aller vers les filières restreintes que on nous a donné, que le conseil de classe a déterminé. On peut effectivement recommencer, donc, par exemple, dans le cas que je citais, en général, mais donc, à ce moment-là, il s'agit d'une demande de redoublement sur base volontaire. Alors l'AOC, qu'est-ce que c'est ? Ben, l'AOC, c'est ben, malheureusement, c'est l'échec et donc je ne peux passer dans aucune année supérieure. Même en professionnel, hein, parce que parfois certains pensent qu'avec une AOC, on peut aller en professionnel. Non. Si j'ai une AOC, je ne peux aller dans aucune filière dans l'année supérieure, ni en professionnel, ni en technique, ni en général. Donc, enfin, c'est-à-dire que je dois rester là où je suis, et dans l'année dans laquelle je suis, et recommencer. Alors, ça vaut donc pour le deuxième et le troisième degré. Dans ce qu'on appelle le premier degré, c'est-à-dire la première et la deuxième année, on ne parle pas d'AOA ou BAOC. Pourquoi ? Parce que il ne s'agit pas de redoublement au sens juridique, mais donc il faut rappeler que dans le premier degré, je dois faire impérativement le premier degré en 3 ans maximum. Ça veut dire qu'au terme de la deuxième année, si effectivement l'évaluation n'est pas satisfaisante et si j'ai moins de 16 ans, je serai orienté vers une deuxième S, c'est-à-dire une deuxième spécialisée, une deuxième complémentaire, disons, parce que spécialisée, ça pourrait prêter à confusion. Donc une deuxième complémentaire, c'est-à-dire que j'ai droit à 3 années maximum dans le premier degré. Et donc, au terme de ce premier degré, ben, si tout s'est bien passé, je vais pouvoir obtenir ce qu'on appelle, on y reviendra encore tout à l'heure, le CE1D, ça veut dire le certificat d'enseignement secondaire du premier degré. Si j'ai obtenu ce CE1D, je pourrai, à ce moment-là, aller où je veux en troisième année, c'est-à-dire soit de continuer en général, mais soit de faire des choix plus précis, en technique de transition, en technique de qualification ou en professionnel. Si maintenant je n'ai pas réussi ce CE1D, à ce moment-là, le conseil de classe va me déterminer les filières où je vais pouvoir aller. Encore une fois, si je n'ai fait que 2 ans et que j'ai moins de 16 ans, il m'indiquera que je serai orienté vers une 2S, c'est-à-dire vers une deuxième complémentaire, et là pour pouvoir recommencer cette année-là, mais je ne recommence pas l'année telle quelle, c'est-à-dire je suis censé quand même obtenir une remédiation à mes difficultés et au terme d'une année supplémentaire à ce moment-là, ben, on espère quand même que j'obtiendrai mon CE1D et qu'alors je pourrai continuer où je veux en troisième année. Voilà en résumé, disons pour pas trop compliquer, voilà en résumé comment ça se passe, quoi.
Ok. Donc moi, si je résume ton résumé, donc on parle de AOA, AOB, AOC à partir donc du deuxième degré et d'attestation de compétences pour le premier degré,
oui, c'est ça.
Par l'acquisition du CE1D donc.
Oui.
Ok, donc maintenant on va se quitter pour une courte pause musicale avec Diams La Boulette.
Ouais, je me la raconte, ouais, je déconne. Non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes. On m'a dit que t'aimais le rap, voilà de la boulette. Sortez les briquets, il fait trop tard dans l'hôtel.
Alors, ouais, je me la raconte, ouais, je déconne. Non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes. On m'a dit que t'aimais le rap, voilà de la boulette. Sortez les briquets,
sortez les briquets.
Y'a comme un goût de haine quand je marche dans ma ville. Y'a comme un goût de gêne quand je parle de ma vie. Y'a comme un goût d'aigreur chez les jeunes de l'an 2000. Y'a comme un goût d'erreur quand je vois le taux de suicide. Me demande pas ce qu'il épouse à casser des vitrines. J'suis pas la mairie, j'suis qu'une artiste en devenir, moi. J'suis qu'une boulette, me demande pas si j'ai le bac. J'ai que le rap et je l'embarque, je l'embrasse. Je le macarre, je l'embrasse. Y'a comme un goût d'attentat, comme un goût de Bertrand Cantat. Comme un goût d'anthrax pendant l'entraque. Y'a comme un goût de foulec chez les mots. Comme un goût de boulette sur les ondes. Alors ouais, on déconne, ouais, on étonne. Non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non, génération, non. Alors ouais, on déconne, ouais, on étonne. Non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non, génération, non. Y'a comme un goût de viol quand tu marches dans ma ville. Y'a comme un goût d'alcool dans les locaux de police. Y'a comme un goût de peur chez les meufs de l'an 2000. Y'a comme un goût de bœuf dans l'oxygène qu'on respire. Me demande pas ce qu'il épouse à te casser les couilles. J'suis pas les secours, j'suis qu'une petite qui se débrouille, moi. J'suis qu'une boulette, me demande pas si j'aime la vie. Moi j'aime la rime et j'emmerde Marine. Juste parce que ça fait zizir. Comme un goût de bad boy, comme un goût d'agapone, comme un goût de hardcore,
hardcore.
Dans les écoles, y'a comme un goût de foulette, foulette chez les mots. Comme un goût de boulette, boulette sur les ondes.
Alors ouais, on déconne, ouais, ouais, on étonne. Non, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non, non, génération, non, non.
Comme un goût d'Afrique dans les caisses de la Francia. Comme un goût de Démédémago dans la bouche de Sarko. Comme un goût de Michto près des Merco. Y'a comme un goût de coucou dans les chambres des jeunes. Y'a comme un goût de boum boum dans le cœur de mes sœurs. Y'a comme un goût de chouï saoulé de tout ce qui se déroule. Y'a comme un goût de foulette, de boulette qui saute dans la foule.
Alors ouais, on déconne, ouais, ouais, on étonne. Non, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non, non, génération, non, non.
Avec le titre La Boulette, jeune radioactif pour la fin de l'année scolaire. Dans cette deuxième partie, on va parler des années diplômantes, et ce évidemment en période Covid. On va également parler des recours internes et externes. Donc on va d'abord commencer par parler donc des années diplômantes, comme j'ai dit. Et donc Eric, je me tourne vers toi. Quelles sont les modalités d'examen pour les années diplômantes? Et peut-être un peu rappeler ce que c'est aussi les années diplômantes pour le coup.
Oui, d'abord, bon, ben, une année diplômante, c'est forcément une année à la fin de laquelle on va pouvoir obtenir un diplôme, si tout s'est bien passé, évidemment. Alors, généralement, on identifie ça aux années qui, où sont organisés ce qu'on appelle les examens, les évaluations externes, c'est-à-dire les évaluations qui sont conçu par le ministère de la communauté française. Et donc, clairement, il s'agit du CEB, c'est-à-dire le diplôme de fin de primaire, du CE1D, dont on parlait tout à l'heure, donc qui est le diplôme de la fin du premier degré, donc de l'enseignement secondaire, et du CESS, qui est le diplôme final du secondaire, c'est-à-dire celui que, généralement, on obtient en sixième, donc soit à la fin d'une sixième générale, d'une sixième technique de transition, d'une sixième technique de qualification, et si c'est en professionnel, c'est au terme d'une septième, pas au terme d'une sixième. Quand on est en professionnel, le CESS s'obtient à la fin d'une septième. Donc ça, c'est peut-être toujours bon de le rappeler aussi. Donc ça, c'est les années diplômantes, mais non. Il y a aussi pour les qualifications, on peut obtenir des certificats de qualification. Généralement, le certificat de qualification complet, on l'obtient soit au terme d'une sixième professionnelle, soit au terme d'une sixième technique de qualification. Il existe aussi des qualifications particulières, mais ça c'est donc ça encore autre chose. C'est souvent des compléments ou des spécialisations qu'on peut obtenir à la fin d'une septième professionnelle. Mais bon, on peut très bien faire des septièmes professionnelles rien qu'avec des cours généraux pour obtenir le CESS, puisque généralement, à peu près toutes les sixièmes professionnelles délivrent une qualification à la fin de la sixième. Et alors, il existe aussi un certain nombre de septièmes techniques de qualification. Là, on va pas organiser un CESS, puisque le CESS en technique de qualification, il aura déjà été obtenu en sixième. mais on va pouvoir avoir des compléments de formation ou alors éventuellement aussi des accès à certains métiers. Par exemple, en professionnel, pour devenir puéricultrice ou puériculteur, il faut avoir un certificat de qualification de 7e année. Par exemple, en technique de qualification, pour être prothésiste dentaire, il faut le certificat de qualification de 7e donc technique. Bon, ça, ce ne sont que des exemples, évidemment. Donc, voilà.
Ouais. Donc, moi, j'aimerais revenir sur donc, les jeunes qui sont dans les filières qualifiantes, pour le coup. Donc, comment
les,
est-ce qu'ils
peut-être
sont...
les modalités
ouais,
d'examen.
Les modalités d'examen, ouais, c'est ça.
Ouais.
Donc, ouais, les modalités d'examen, pardon, pour les années diplômantes. Mais ça, j'avais déjà posé la question. Donc...
Ouais, c'est ça. Mais bon, ça, on... oui. J'ai en partie répondu dans le sens où, effectivement, ça fait l'objet d'évaluations externes. Mais évaluation externe, ça ne veut pas dire qu'on va le faire à l'extérieur de l'école. C'est organisé concrètement dans l'école. Mais pourquoi externe? Parce que c'est donc le ministère de la Communauté française qui a conçu ces examens-là. Donc, c'est, par exemple, CEB, CE1D ou CESS. Mais... Donc ça s'organise dans les écoles, c'est diffusé par la communauté française, donc par le ministère de tutelle, et ça porte sur les branches qui ont été vues donc, pendant l'année. Quoi. Quand on parle de CESS en humanité générale, ben, forcément c'est toutes les matières du général sur lesquelles on est interrogé. En CE1D... Donc, à la fin du premier degré, ben, ce sera essentiellement le français, les mathématiques, les sciences. Enfin, sciences, ça s'appelle même encore plus ou moins études du milieu à ce moment-là. Sur le néerlandais, donc la deuxième langue. Et alors, il y aura également encore des examens, normalement, quand on fait des examens qui seront complétés avec de la géographie, de l'histoire. Mais, je veux dire, ce sont vraiment ce qu'on appelle les fondamentaux, donc ceux que je viens de citer, qui sont organisés dans le CE1D. Et alors, bon, en primaire, hein, c'est vraiment les matières essentielles qui touchent aux mathématiques au niveau primaire, qui touchent à la langue maternelle, donc au français, qui touchent aussi donc à tout ce qui est études du milieu, comme on dit, qui est un peu l'amorce des sciences, quoi, par la suite, quoi. Donc voilà, ça c'est pour les modalités. On va pas s'attarder plus là-dessus. Mais donc ce qu'il faut savoir aussi, parce que bon, on est quand même dans un contexte un peu particulier, enfin plus que particulier, puisque on est toujours dans un contexte de pandémie et que donc d'une part l'année scolaire a quand même été fortement impactée, comme on sait, par la pandémie, hein, donc avec à certains moments des présences en classe, mais aussi pendant de très longs mois. Des enseignements pour beaucoup d'élèves à partir de la troisième année, en tout cas des enseignements hybrides, c'est-à-dire la plupart du temps, enfin grosso modo à la maison et puis une certaine partie du temps à l'école. Mais donc tout ça n'est pas un facteur de stabilisation d'une part, et d'autre part ce qu'il faut signaler aussi, mais ça on y reviendra, c'est que donc, pour tout ce qui est des années donc diplômantes avec donc les épreuves externes CEB, CE1D, CESS, là, les examens doivent être organisés. Par contre, les écoles n'ont pas obligation d'organiser les examens pour les autres années qui ne sont pas ces années diplômantes. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que, sans trop compliquer les choses, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les écoles qui appartiennent au réseau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est-à-dire en gros les athénées de la communauté française, celles-là, il n'y aura pas d'examen, donc il y aura d'autres modalités d'évaluation, ce sera le travail de l'année, ce sera ce qu'on appelle les évaluations formatives, donc le suivi qui aura eu lieu pendant l'année. hein, qui sera traité donc en conseil de classe. Mais tout ce qui est toutes les écoles de ce qu'on appelle les réseaux subventionnés, c'est-à-dire les écoles libres, c'est-à-dire essentiellement les écoles confessionnelles, catholiques ou les écoles musulmanes ou les écoles juives, ou d'autres encore, des écoles protestantes aussi, ou alors les écoles laïques mais qui relèvent du libre, ainsi que les écoles communales, les écoles provinciales et les écoles de la COCOF. Là, en fait, c'est le pouvoir organisateur qui décide s'il y a des examens ou pas d'examens. Alors, maintenant, ils doivent s'être déjà déterminés, puisque la ministre de l'Enseignement a prévu de façon obligatoire à ce que les écoles, si elles n'organisaient pas les examens, qu'elles modifient les modalités d'évaluation dans le règlement général des études au 10 mai et que ce soit communiqué aux parents pour le 10 mai au plus tard aussi. Donc ça veut dire le 10 mai, on a déjà dépassé. Hein, donc ça veut dire c'était déjà lundi, pas ce lundi-ci, déjà le lundi d'avant. Donc ces écoles-là ont dû, si soit elles n'ont rien modifié et donc elles font leurs examens, elles font des examens comme elles faisaient avant, soit elles modifient le règlement des études, elles ont dû modifier le règlement des études au 10 mai pour prévoir les nouvelles modalités d'évaluation. Donc soit sur, par exemple sur les points de l'année uniquement ou sur les évaluations formatives, hein, qui portent cette année-ci, comme aussi la ministre y a bien insisté, sur les essentiels. C'est-à-dire que compte tenu justement du contexte de pandémie, eh bien, donc, on prend en compte ce qui est vraiment essentiel, et ça, c'est défini dans une circulaire, et c'est sur cette part-là de la matière, donc ce qui est le plus important, en quelque sorte, que les élèves doivent être évalués, hein, et pas sur la totalité de la matière. Donc, ça, c'est un élément à retenir quand même aussi, quoi. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à tout.
Mais oui, oui. On va peut-être encore parler.
Encore parler de ça après.
Ouais, des recours quand même.
Oui.
Donc, comme tu disais, donc suite aux évaluations, si par exemple il y a des jeunes qui sont pas d'accord suite à la décision du conseil de classe, comment est-ce qu'ils peuvent, enfin, quelles sont les solutions qui peuvent, enfin, vers quoi peuvent-ils se tourner? Donc, j'imagine. Est-ce que c'est pertinent pour eux si ils font des recours ou pas? Donc la différence entre recours interne, externe.
Oui, d'accord. Donc ouais, c'est ça. Donc si effectivement, ça veut dire que soit bon, pour qu'il y ait des recours, il faut qu'il y ait eu une AOB ou une AOC, hein, puisqu'une ouais. AOA, ça veut dire que de toute façon, t'as réussi, tu peux passer sans condition. Donc là, il n'y a pas de recours forcément. Maintenant, au niveau du premier degré, sur les attestations de compétences, effectivement, si le conseil de classe ne donne pas le CE1D, et donc ça veut dire le passage en troisième année générale et dans les autres années, enfin, là où l'élève veut aller, s'il y a donc des restrictions aussi, à ce moment-là, des recours peuvent être introduits. Alors, comment ça se passe? Ben, d'une part, d'abord un recours, bon, il faut quand même rappeler les bases, je veux dire, même si on est dans une situation particulière, on introduit un recours, évidemment, quand il y a des arguments pour le faire, quoi. Donc, il ne suffit pas de dire « j'introduis un recours parce que je ne suis pas satisfait de la décision ». Bon, ça, c'est sûr, mais qu'on n'est pas satisfait de la décision, mais il faut pouvoir amener des arguments. Alors, les arguments, bon, ce qui est prévu aussi à la base, indépendamment de la pandémie ou pas de la pandémie, c'est qu'il y ait des éléments dont le conseil de classe n'avait pas connaissance au moment où il a pris sa décision. Ça, c'est les conditions de base. Maintenant, évidemment, dans le contexte tout à fait particulier encore dans lequel on est, il est certain que le contexte de pandémie, comme je disais tout à l'heure, a mis les élèves quand même dans une situation aussi quand même instable, et je veux dire en termes de préalable ou de bien-être, je dirais, enfin pas seulement de bien-être, mais aussi de conditions vraiment d'apprentissage minimum, c'était peut-être pas toujours le cas, évidemment, pour pour tout le monde, loin de là, et peut-être pour pas grand monde d'ailleurs, si pas pour personne. C'est-à-dire que, comme je disais par exemple tout à l'heure, le fait qu'on ait été pendant de longs mois dans un enseignement hybride, c'est-à-dire en partie à l'école, mais alors avec une moitié de la semaine ou une semaine sur deux à la maison. Est-ce que, la question qu'il faut se poser aussi, est-ce que effectivement les matières sur lesquelles j'ai été interrogé ou évalué, s'il n'y a pas d'examen, est-ce que ces matières-là, est-ce qu'elles ont vraiment été transmises ? Est-ce qu'elles ont vraiment fait l'objet d'un apprentissage dans des conditions qui me permettaient effectivement de m'approprier ces matières-là ou pas ? Mais ça, bon, il faut pouvoir le vérifier, hein, évidemment. Bon, on peut le dire, mais bon, il faut quand même être sûr aussi de ce qu'on avance. Donc, c'est clair que les conditions dans lesquelles on est, dans les conditions dans lesquelles on a été au niveau de l'apprentissage, bon, ça, c'est clair, c'était pas du tout idéal, mais il faut aller plus loin, il faut pouvoir concrétiser. Est-ce qu'on m'a, en quelque sorte, noté de façon, enfin, coté de façon négative dans l'évaluation finale sur des points de matière sur lesquels, soit je n'ai pas eu en fait des occasions d'apprentissage réelles ou suffisants ou un suivi suffisant. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que donc la ministre a rappelé quand même aussi dans ses, non seulement dans ses interventions, mais dans ses circulaires, que le, et ça c'est un élément important, que le redoublement doit encore une fois rester exceptionnel. Et que, donc justement, ce contexte tout à fait particulier dans lequel les élèves ont baigné encore cette année-ci doit être pris en compte. Donc, peut-être que trop souvent, et encore l'année passée, on a pu l'observer, c'est que certaines écoles, bon, faisaient comme si, finalement, l'histoire de la pandémie, c'était complètement anecdotique, alors que aujourd'hui tout le monde est d'accord, que ce soit les profs ou enfin tout le monde, je veux dire, est bien d'accord pour dire qu'il y a eu un impact majeur sur le plan psychologique, sur le plan de la santé mentale des jeunes et donc des élèves à cause de cette pandémie. Malgré tout, ce qu'on constatait quand même l'année passée et encore en septembre, c'est que finalement, une fois qu'il fallait évaluer, bah, c'est comme si finalement cette histoire de Covid, c'était de l'anecdote, quoi. C'est comme si tout se passait comme s'il n'y avait rien eu, quoi, en quelque sorte. Donc ça, ça va pas. Donc, bon, pour résumer, donc les conditions sur lesquelles effectivement il faudrait vérifier des choses quand on fait un recours. D'une part, est-ce que j'ai bien reçu toutes les toutes les matières dans des conditions qui me permettaient de me les approprier, toutes ces matières sur lesquelles alors j'ai été évalué en fin d'année, ou bien est-ce que bon, on considère que j'aurais dû les acquérir, mais je veux dire, il n'y avait pas un dispositif en place vraiment suffisant et de qualité que pour faire en sorte que je me les approprie. Deuxièmement, alors ce qui est vraiment important, Le redoublement doit rester tout à fait exceptionnel, dixit la ministre. Troisièmement, il faut aussi, et ça elle insiste aussi la ministre là-dessus, c'est qu'il y ait eu un dialogue préalable au conseil de classe avec les parents et que l'élève et les parents aient pu faire valoir le projet de l'élève. C'est-à-dire que est-ce que je suis déjà déterminé pour une option ? Est-ce que, peut-être plus loin, est-ce que je suis déjà déterminé pour un métier ? Donc ça, il faut que, en tout cas, qu'il y ait eu un dialogue qui ait été organisé, quoi. Donc ça, il faut quand même le vérifier. Enfin, ça, on le sait, mais il faut quand même pouvoir l'utiliser, le cas échéant, comme argument aussi. Il y a cet élément-là, je trouve, qui est quand même fort important aussi. Ce que je voulais peut-être encore préciser, c'est par rapport... parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui...
Tu parlais des arguments pour les recours. Ouais. Tu en avais cité deux.
Ben, c'est, oui, en fait, ce sont pas les arguments, ça reste évidemment toujours personnel et lié à la situation concrète de la personne.
Ouais, c'est ça.
Maintenant, c'est une manière d'aborder les choses, quoi. Donc, c'est l'angle sous lequel. Donc, effectivement, la question du non-redoublement qui doit rester de façon exceptionnelle, la question de. Est-ce que l'élève qui était déjà en difficulté, et bon, ça, il y en a beaucoup, et ça n'a fait qu'être renforcé justement par les conditions de la pandémie, est-ce que ces élèves-là ont bénéficié d'un suivi et d'un accompagnement, ce sont les termes qui sont repris hein, par la ministre, est-ce que j'ai pu bénéficier d'un suivi et d'un accompagnement optimal pour me préparer à l'année suivante? Donc, ou bien, est-ce qu'on m'a laissé comme ça à mon sort, quoi ? Enfin, je veux dire, bon, voilà, débrouille-toi, et puis, ah, t'as pas réussi. Ou bien, est-ce que l'école, de son côté, a fait son travail pour pouvoir, effectivement, me donner quand même les moyens pour pouvoir réussir, quoi ? Et ça, ce sont vraiment des choses importantes avec lesquelles on peut envisager un recours, quoi.
Ouais.
Hein ? Et donc, d'abord, alors, parce que, bon... il faut dire les choses quand même sans être trop long non plus. D'abord, il faut introduire un recours interne. Donc ça, c'est auprès de l'école. Généralement, c'est très rapide. C'est dans les... Il faut en fait... après la délibération, après la communication des résultats, il faut que l'élève ait au moins 48 heures pour pouvoir introduire son recours, enfin ses parents, si l'élève est mineur. Et au cas où... Le recours interne n'a pas fonctionné. J'ai jusqu'au 10 juillet, puisqu'on va parler maintenant de ce qui vient directement, c'est-à-dire la session de fin juin, j'ai jusqu'au 10 juillet pour introduire le recours externe. Mais je dois avoir introduit un recours interne pour pouvoir faire valoir un recours externe. Je ne peux pas sauter l'étape et aller directement en recours externe, quoi.
Ça va.
Donc voilà en gros les articulations de la procédure. On pourra encore évidemment
oui, en parler sûrement beaucoup de choses à
mais
dire.
J'essaye de donner des éléments clés, quoi. Donc, ouais. Voilà.
Bah, merci beaucoup pour toutes les infos. En tout cas, Eric, et maintenant, on va s'écouter Sans repère de Sniper.
La place d'un père, la place d'une mère dans une famille, la place de deux êtres chers sans cesser mais pour la vie, unis par leur volonté, par les sentiments en commun, simplement réunis, on craint rien, enfin, c'est ce qu'on dit, mais pas toujours ce qu'on voit. J'ai demandé pourquoi, on m'a répondu c'est la vie, puis-je donner mon avis, faut que je reste en dehors de ça, quand l'amour se transforme en haine et qu'on se déchire devant moi, voilà ce qu'il en est, et ce n'est pas autrement qu'on prend tant d'engouement pour l'histoire de mes tourments, le temps évolue. J'ai fait face aux soucis, j'ai grandi. Maman est là, mais papa est parti. Et là j'ai compris que t'as préféré tourner la page. J'étais pas du voyage, dire que je te croyais au paradis. Vu que l'alcool fait des ravages, tu t'es pas rattrapé. Et sans même te retourner, je t'ai vu t'éloigner du rivage. Est-ce dû à ta vie merdique? J'en sais trop rien, devenu alcoolique. Et tu fais du mal au tien. Combien de fois tu l'as vexé? Combien de fois t'étais pas là? Combien de bleus sur ses bras? Car quand on aime, on compte pas.
Tu es parti, sans même que l'on ne puisse te dire au revoir. Parti, sans même que l'on ait puisse te dire au revoir. Au fond de mon cœur, il reste encore un espoir.
Oh papa, si j'avais pu, je t'aurais dit non, ne pars pas. J'étais trop petit pour comprendre, j'ai dû grandir sans toi. Même si maman s'est bien occupée de moi, il me manquait un repère, un père derrière moi. Je fermais les yeux et j'imaginais ton visage. J'avais juste que t'étais noir vu mon métissage. À l'école on me demandait ton papa il fait quoi. Les autres se marraient quand moi je ne répondais pas. Le jour où je suis tombé sur cette photo de mariage, le puzzle de ma vie a commencé son assemblage. J'ai enfin su à quoi tu ressemblais. Impossible d'expliquer l'effet que ça m'a fait. 1990, le téléphone sonne. Après l'orage, le soleil rayonne. Maman m'appelle et me dit quelqu'un veut parler. J'ai juste entendu allô, j'ai compris qui c'était. Quelques semaines plus tard, te voilà devant moi. Est-ce la réalité ou ce rêve que je fais à chaque fois? T'es resté 8 ans, puis t'es reparti.
t'es retourné au pays.
Tu es parti sans même que l'on ne puisse te dire au revoir. Au fond du cœur, tout est devenu si noir. Tu es parti sans même que l'on ne puisse te dire au revoir. Au fond du cœur, il reste encore un espoir.
À la suite de ton départ, j'ai dû me faire une raison quand elle a dit au grand frère, maintenant t'es l'homme de la maison. Elle si fière, devenue la cause de mes souffrances, devant nous l'air de rien mais qui pleurait en silence. J'aimerais plus t'en vouloir, à l'inverse de mon cœur, une rancœur intérieure, d'avoir juste un géniteur à toute personne délaissée, sans présence de daron, divorcé ou décédé, qu'on juste hérité d'un nom.
Oh papa, j'ai mis 4 ans pour effacer ma rancune. Un père on en a qu'un, une mère on en a qu'une. J'ai rangé ma fierté, je t'ai rejoint là-bas. Mon coulé quand tu m'as pris dans tes bras. Moi je t'ai retrouvé, d'autres n'ont pas eu cette chance. Je leur dédie ce morceau et partage leur souffrance. Ceux victimes d'un abandon, d'un divorce ou d'un décès, ceux qui vivent avec le cœur blessé.
Tu es parti sans même que l'on ne puisse te dire au revoir. Au fond du cœur, tout est devenu si loin. Tu es parti sans même que l'on ne puisse te dire au revoir. Au fond du cœur, parti sans même que l'on ne puisse te dire au revoir. Au fond du cœur, tout est devenu si loin. Tu es parti sans même que l'on ne puisse te dire au revoir. Au fond du cœur, il reste encore un espoir.
Sur Radio Panique avec nous les jeunes radioactifs. En plus de ces décisions d'orientation qui auront un impact sur la trajectoire future du jeune, une autre problématique qui surgit pour certains jeunes à la fin de l'année scolaire, entre le 30 juin et le 5 septembre, et qui les inquiète ainsi que leurs parents, c'est le refus de réinscription dans l'établissement scolaire. Donc ce refus de réinscription est en réalité une décision d'exclusion définitive. On en parle dans cette dernière partie d'émission. Alors Eric, peux-tu nous donner les motifs qui peuvent conduire à l'exclusion définitive ou un refus de réinscription ?
Oui, donc Ardita, tu as bien fait de rappeler que sur un plan juridique, un refus de réinscription et une exclusion définitive, c'est la même chose juridiquement parlant. Ça veut donc dire que la procédure et donc tout ce qui la caractérise doit être rigoureusement la même dans les deux cas. Alors pourquoi est-ce qu'il y a ces deux termes ? Parce que la procédure d'exclusion définitive qu'on nomme en tant que telle, c'est généralement comme ça qu'on l'appelle durant l'année scolaire, hein, durant l'année où il y a les cours, tandis que le refus de réinscription, qui est une exclusion définitive, hein, rappelons-le, on l'appelle comme ça à partir du moment où la procédure s'entame entre le 30 juin et le 5 septembre. Donc ça veut dire que l'école a encore une possibilité, enfin, on va voir, ce n'est pas à n'importe quel prix, n'importe comment évidemment, d'entamer une procédure à l'encontre de l'élève, une procédure d'exclusion, jusqu'au 5 septembre de l'année qui suit, enfin de l'année en question. Ça veut dire que par exemple, si ça concerne cette année-ci, qui était l'année donc 2020-2021, l'année scolaire 2020-2021, eh bien, une procédure de refus de réinscription, donc une procédure d'exclusion définitive, Elle peut courir jusqu'au 5 septembre 2021, c'est-à-dire jusqu'à la rentrée prochaine, quoi, mais pas au-delà, évidemment. Alors, au-delà de ça, qu'est-ce qui caractérise finalement une procédure d'exclusion ? D'abord, ce qu'il faut dire d'entrée de jeu, c'est que donc il y a des balises juridique précise. Il n'est pas question qu'une école dise « Bon, moi, je ne veux plus voir cet élève et donc il est exclu et donc voilà, je prends mon téléphone et je enfin, en tant que directeur et je téléphone à l'élève et à ses parents en disant « Votre fils n'est plus ou votre fille n'est plus admise au sein de l'école ». Ce n'est pas comme ça que ça marche, évidemment. Tout d'abord, il faut qu'il y ait des faits suffisamment graves qui justifient l'entame d'une telle procédure. Alors, quand on parle de faits suffisamment graves, ben, ce sont vraiment des faits graves. C'est-à-dire que il y a d'ailleurs non seulement il y a une circulaire, mais il y a aussi des instructions claires qui sont reprises dans ce qu'on appelle donc le décret mission, qui est en fait un décret qui a été mis sur pied à partir le 24 juillet 1997. Évidemment, depuis 1997, ce décret lui-même a été amendé successivement avec les retouches qui ont été faites par le législateur. Mais donc, ça reste toujours la base légale à laquelle on peut se référer et dans laquelle tout se trouve. Donc, si, à titre d'information, si on est intéressé pour savoir un petit peu tout ce qui concerne la réglementation des écoles et donc ce qui concerne notamment le disciplinaire, puisque quand on parle de procédure d'exclusion, ben, on est vraiment dans la matière disciplinaire. On peut retourner, on va sur Google par exemple et on tape décret mission juillet 1997, 24 juillet 1997. On va retomber sur des PDF et on pourra aller voir là-dedans. Bon, il y a quand même pas mal de pages, mais on retrouve assez vite les éléments, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans ? Ben, on retrouve notamment, comme je disais, le fait que les faits qu'on reproche à l'élève doivent être suffisamment graves. Ça veut dire que, bon, pour résumer, ce sont généralement des faits de violence, pas forcément des faits de violence physique, ça peut être une violence psychologique, mais bon, de manière répétée ou de manière quand même importante. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même un principe qu'il faut considérer, qui est un principe de droit, et pas seulement de droit scolaire, hein, on va retrouver ça à plusieurs endroits, c'est le principe de proportionnalité. Trop souvent, on voit aussi, nous, à Infogen, que leurs parents ont reçu un recommandé signifiant qu'une procédure d'exclusion allait être entamée ou était entamée, et que, bon, une fois qu'on lit la motivation, donc une fois qu'on lit les faits, ben, on s'aperçoit que c'est des faits finalement assez mineurs et qui ne sont pas proportionnés à la gravité qui doit justifier la procédure d'exclusion. Donc la gravité, encore, je reviens, c'est l'effet de violence. Mais bon, si on va voir la circulaire, on s'aperçoit qu'il y a aussi, là-dedans, introduire des armes à l'école. Donc ça veut pas dire que si on n'a pas introduit des armes à l'école, il n'y a pas de violence. Mais c'est, d'office, si on introduit des armes dans l'école, si on introduit des stupéfiants, là aussi, par exemple, ça fait partie des éléments qui peuvent justifier une procédure d'exclusion définitive, quoi. Ou alors, entrave à la bonne marche de l'établissement. Et là, on rentre un petit peu plus dans une zone grise parce que, bon, évidemment, ça prête le flanc à une interprétation, entrave à la bonne marche de l'établissement. Il faut quand même que ce soit quelque chose de suffisamment important pour que l'établissement soit impacté dans sa dynamique. On ne peut pas dire que, bon, un élève qui aurait claqué une porte, il a fait entrave à la bonne marche de l'établissement, si ça s'arrête là. cet élément-là, ou alors, oui, atteinte à la réputation de l'établissement. Ben, certains établissements avancent ça, mais bon, il ne suffit pas simplement d'avoir fait une sortie à l'extérieur avec le groupe classe et que l'élève est sorti, je ne sais pas moi, une idiotie ou une insulte comme ça une fois, et que voilà quoi, et que d'office il y a vraiment un entachement, je dirais, de la bonne réputation de l'établissement. Donc voilà, donc c'est cet élément de proportionnalité qui est super important, et donc il doit être à la hauteur de la gravité. Donc il faut que les faits soient vraiment à la hauteur de l'importance de la décision, parce que de la décision qui pourrait suivre, puisqu'il faut rappeler quand même que l'exclusion définitive ou le refus de réinscription, c'est la sanction quand même la plus grave qu'une école puisse prendre à l'encontre d'un élève, quoi. Hein? Donc, c'est qu'il n'y avait pas d'autres possibilités avant, quoi. Et c'est pour ça, en termes de prévention, moi je voudrais quand même un peu insister aussi, puisque le mot dit bien ce qu'il veut dire, procédure d'exclusion. Mais bon sang, je pense qu'il faudrait, avant d'arriver à des procédures d'exclusion, il faut quand même qu'on ait essayé de faire un peu tout ce qui était possible en matière plutôt d'inclusion de l'élève. Et donc, nous, ce qu'on essaye de mettre en avant, c'est quand même sur le plan pédagogique et donc dans les interactions qu'on peut avoir avec les écoles et les chefs d'établissement, c'est quand même d'abord d'essayer effectivement des mesures plus intégratrices, quoi, c'est-à-dire des mesures réparatrices, des mesures où effectivement l'élève pourrait se sentir davantage partie prenante du processus et du système scolaire, quoi. Donc, par exemple, faire des travaux, ça peut être interprété d'une façon bizarre, je dirais des travaux d'intérêt général, mais travaux d'intérêt général, c'est pas nettoyer les toilettes, quoi. C'est vraiment faire un travail, par exemple, de réflexion sur les faits qui ont été commis et de dire comment, par exemple, on compte dorénavant agir, comment on voudrait effectivement mettre en place des comportements qui feraient que on va s'intégrer davantage dans le groupe classe et dans la communauté scolaire, par exemple en faisant donc un travail écrit là-dessus, c'est un exemple, hein, simplement, et en présentant ce travail écrit auprès des autres élèves, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait être proposé aux directions d'école. Mais là, bon, je sors un peu du contexte, parce que, enfin, du sujet, pas vraiment non plus, puisque, il y a la procédure d'exclusion contre laquelle il faut pouvoir se défendre une fois qu'on en fait l'objet, mais en même temps, je pense que les écoles devraient être attentives à mettre en place suffisamment d'initiatives et de balises avant d'en arriver là, quoi. Donc voilà, maintenant, bon, pour pas la faire trop longue non plus par rapport à l'exclusion proprement dite, à la procédure proprement dite, donc, c'est une procédure, donc ça veut dire que d'abord les parents doivent être informés qu'une procédure est en cours. Ils doivent être informés par recommandé, avec les motifs clairs et précis. Donc là aussi, question de la proportionnalité, tout ça, il faut que les motifs soient clairement établis. Les parents, donc suite à l'envoi du recommandé, il faut laisser un minimum de 4 jours aux parents et à l'élève pour pouvoir organiser leur défense, quoi, la réponse qui va être faite. Puisque, après le recommandé, il y a une réunion, c'est-à-dire ce qu'on appelle une audition devant la direction de l'État, avec la direction de l'établissement. Et donc, il faut laisser 4 jours minimum pour se préparer avant que l'audition ait lieu. Au terme de l'audition, la direction de l'établissement doit réunir à nouveau le conseil de classe, le soir même, enfin le jour même, ou le lendemain au plus tard, pour confirmer ou pas la décision de renvoi. Donc, si, hélas, la décision de renvoi définitif est confirmée via le conseil de classe, la direction de l'établissement doit directement en informer. Généralement, ça se fait par téléphone, mais pas uniquement, parce qu'ils doivent renvoyer aussi un recommandé pour confirmer donc le renvoi définitif. Et alors, si c'est le cas, L'élève et ses parents ont 10 jours, mais 10 jours ouvrables, hein, pas 10 jours calendrier. Donc 10 jours ouvrables pour introduire un recours auprès du pouvoir organisateur. Alors c'est parce que c'est pas du tout le même type de recours que ce dont on a parlé comme recours là tout à l'heure, avec recours interne, recours externe en matière de délibération. Les recours en matière de délibération, c'est une chose, et ça c'est l'affaire, donc c'est auprès, d'abord auprès de l'établissement et puis auprès de la communauté française. Et les recours face à une exclusion ou à un refus de réinscription, c'est directement auprès du pouvoir organisateur. Pouvoir organisateur, c'est-à-dire que quand on est dans une école de la communauté française, donc un athénée généralement, c'est auprès de la direction générale de l'enseignement obligatoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Quand c'est une école, par exemple une école catholique, donc, ou une école libre, c'est auprès du conseil d'administration. C'est le président du conseil d'administration qui reçoit la lettre de recours. Quand c'est la commune, si c'est une école communale, c'est le collège des bourgmestres et échevins. Alors en province, donc c'est-à-dire parce que, bon, pas à Bruxelles, mais en province, donc en Wallonie, c'est la députation permanente de la province qui est le pouvoir organisateur. Et à Bruxelles, il existe quand même, par exemple, au CERIA, toutes les écoles du CERIA sont des écoles qui sont organisées par la COCOF, puisqu'à Bruxelles, il n'y a plus de province. C'est la COCOF qui a les compétences de la province depuis 25 ans. Et donc, c'est auprès de la COCOF que c'est le pouvoir organisateur que le recours doit être introduit. Donc voilà, hein. Donc c'est un peu compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, mais il faut, disons, ce qui est important à retenir, c'est que c'est pas du tout les mêmes types de démarches de recours que par rapport aux recours internes et externes de fin d'année, par rapport aux résultats. Donc ici, c'est autre chose, quoi. Et donc voilà. Ça, c'est en gros, j'ai été vite, hein, bon, pour baliser ça. Maintenant, il faut savoir que pendant les vacances, donc quand c'est entre le 30 juin et le 5 septembre, donc quand on est dans un refus de réinscription, hein, quand c'est intitulé là, qui est repris, ben, à ce moment-là, ce qu'il faut savoir, c'est que donc la règle des 10 jours ouvrables pour introduire les recours, c'est toujours d'application, c'est les mêmes règles. Mais c'est que la réponse du pouvoir organisateur, s'il y a dû y avoir un recours qui est introduit, elle ne se fera pas généralement avant le 20 août. Ouais, avant le 20 août. Donc, entre le 20 août et le 5 septembre, il peut encore y avoir du temps qui passe. Et donc là, effectivement, ça devient un petit peu tendu parce que, je veux dire, pour les personnes, parce que, bon, on est proche de la rentrée, donc il faut savoir dans quelle école on va. Et donc voilà, quoi. Donc, de toute façon, bon, ben, par rapport à ça, s'il y a des questions, InfoJeune est là.
Ça va. Mais je sais pas, je me tourne vers toi, Aurore. Je sais pas si on a le temps de mettre une musique ou alors.
Ah bah non, je pense qu'on va clôturer l'émission, on va clôturer, là, peut-être, ouais. Voir si Eric a encore quelque chose à rajouter et ensuite on clôturera.
Oui, enfin, pour moi, c'est, je sais pas. Moi...
Un dernier mot pour le final ou alors peut-être préciser quelque chose ou mettre en avant, je sais pas moi, les choses plus importantes à retenir. Ouais,
Ben, moi je pense que bon, ce qu'il faut peut-être remettre en avant, c'est. Bon, ben, la question de l'évaluation des évaluations qui vont avoir lieu là maintenant en fin d'année. Donc là, on n'est plus dans les exclusions. Donc, je rappelle, d'un côté, il y a tout ce qui concerne les études proprement dites avec les évaluations. Et ça, c'est un chapitre qui doit être distingué de tout ce qui est exclusion, hein, parce que ce n'est pas les mêmes procédures. Mais en tout cas, souhaiter bon courage. S'ils ont des examens, bon courage aux élèves et qui ne se découragent pas et qui cherchent de l'aide. Ouais. Donc, si effectivement, il y a lieu d'introduire des recours, quels qu'ils soient.
Ça, voilà. Merci beaucoup. À toi, Eric. Et merci, Aurore, aussi en régie. Et merci également à toi qui nous a écoutés. Si tu veux obtenir des infos supplémentaires, je t'invite à taper sur ton clavier www.inforjeune.eu ou tu peux également nous téléphoner au 02 421 71 30. Et avant de se quitter, InfoJeune, Laken tient à remercier Radio Panique pour le studio, la COCOF et la Fédération Wallonie-Bruxelles. On se donne rendez-vous pour notre prochaine émission de Jeunes Radioactifs le 23 juin. À bientôt. Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao.